On va continuer notre étude. On est dans Genèse au chapitre 37. Et on parle de. Je vais juste regarder mon. OK, 62. OK. On parle de Joseph. On a fait déjà deux réunions sur Joseph. Premièrement, on avait regardé Joseph par rapport au choix du père. C'était le choix de son père. On avait vu, ce n'était pas nécessairement du favoritisme, mais c'était vraiment spirituellement, Joseph était, Jacob réalisait que celui qui pouvait prendre la bénédiction pour la famille, au profit de toute la famille, c'était bien Joseph avec son caractère. Puis il l'a prouvé dans la suite du temps, comment le Seigneur l'a utilisé pour aider toute la famille. La semaine passée, on a regardé la haine de ses frères. Ses frères l'ont haï sans cause. Il aurait dû apprécier Joseph, mais ils l'ont haï. Puis aussi, on a vu aussi la semaine passée l'humilité de Joseph. Mais ce soir, on va regarder la tunique de plusieurs couleurs. Puis je l'ai gardée pour ce soir parce que c'est quand même plus. Il y a plus de choses. Ben, on peut toujours dire beaucoup sur tous les passages de la Bible, mais la tunique de plusieurs couleurs, c'est quelque chose d'assez spécial par rapport à Joseph et son caractère. C'est qu'on va lire quelques versets dans la Genèse au chapitre 37 en rapport avec la tunique de plusieurs couleurs que son père lui a donnée. Et on lit au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ensuite, on va au verset 23. Il dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Maintenant, on va aller au verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Passons au verset 32, il dit, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Au verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Puis, il y a pas ça au verset 34, il dit, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider dans cette étude-là. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta bonté. On te remercie, Seigneur, de toutes ces choses qui nous ont été rapportées dans ton Écriture, Seigneur, comment le Saint-Esprit a trouvé bon de nous faire connaître ces choses qui se sont passées dans la vie de ton peuple dans l'Ancien Testament. On pense à Joseph qui nous rappelle beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, on te demande de nous diriger par ton Esprit ce soir afin qu'on puisse trouver des choses qui concernent ton Fils dans toutes ces choses-là, parce que on sait que l'Écriture nous parle toujours de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et plus on apprend de choses sur lui, plus il devient précieux pour nous. Puis, Seigneur, on veut te remercier pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, Seigneur, son nom précieux qu'on te prie. Amen.
Amen.
Donc, quand on voit ici, il parle de la tunique. Puis le mot tunique, ça veut dire un vêtement qui couvre. C'est pour couvrir. Puis, juste le sujet du vêtement dans la parole de Dieu, on voit qu'à travers toute la parole de Dieu, ça revient toujours le vêtement ou être nu ou être vêtu. Depuis la Genèse, depuis que le péché est entré dans le monde, on sait qu'Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte, mais après le péché, Dieu les a revêtus. Puis on voit toujours, on voit les vêtements du souverain sacrificateur, puis des sacrificateurs qui officiaient dans le tabernacle en premier, ensuite dans le temple. C'était des vêtements qui étaient glorieux. Puis à la fin, on voit dans l'Apocalypse, qu'on va être revêtu aussi, son Église est revêtue de fin éclatant pur, car le fin, ce sont les œuvres justes des saints. Et même le Seigneur est revêtu d'un vêtement teint de sang, on voit ça en avançant. Donc, la tunique, c'est un vêtement pour couvrir, ça a une signification de Joseph était revêtu de cette tunique-là que son père lui avait donnée. Puis, ça nous dit que c'est une tunique de plusieurs couleurs. Donc, le mot veut dire une longue tunique à manches, peut-être simplement une tunique qui était ample ou à plusieurs plis. C'est ce que ça veut dire. C'est comme s'il y avait plusieurs facettes. Donc, il y a plusieurs couleurs à la tunique du Seigneur Jésus-Christ. Puis, toutes ces couleurs-là représentent des facettes de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puis, pour décrire le Seigneur Jésus dans la parole de Dieu, parce qu'on sait que l'Écriture nous parle tout au long du Seigneur Jésus. Il y a tellement de choses à découvrir. On passe notre vie chrétienne à découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis encore dans l'éternité, on en découvrir encore. Donc, on voit toutes les choses qui représentent le Seigneur Jésus, comme ici, dans la tunique de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs facettes. Puis ça parle de sa gloire, ça parle de ses beautés. Mais on voit que dans le Seigneur Jésus, il y a plusieurs noms aussi. Ces noms représentent toutes des facettes de son caractère. Ces noms sont importants. Il y a des livres qui ont été écrits sur les différents noms du Seigneur Jésus. C'est des livres assez volumineux avec chaque nom dans la parole de Dieu. On sait que les noms ont tous une signification. Puis ces noms-là du Seigneur Jésus représentent toutes les gloires du Seigneur Jésus. Quand on pense à son sacrifice qui est accompli une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, ben, c'est plusieurs sacrifices qui représentent un sacrifice. Quand on fait l'étude des différents sacrifices dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs. Mais tous ces sacrifices-là représentent un seul sacrifice, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est plusieurs sacrifices qui représentent un seul sacrifice, qui est le Seigneur Jésus. C'est différentes facettes de son sacrifice. Quand on pense aussi aux types, parce que les types nous parlent du Seigneur Jésus, il y a plusieurs types aussi dans la parole de Dieu qui représentent différents aspects du Seigneur Jésus-Christ. Puis, on voit quand on regarde le tabernacle ou le temple, on sait que toutes les choses dans le tabernacle et dans le temple nous parlent du Seigneur Jésus. Puis il y a plusieurs objets. Puis chaque objet, on peut étudier chaque objet en particulier et en voir la définition qu'il représente. On sait que plusieurs de ces objets-là qui représentent le Seigneur Jésus-Christ sont faits de bois d'acacia recouvert d'or. Le bois nous parle de son humanité, incorruptible, et aussi l'or nous parle de sa divinité. Puis même quand on s'arrête à penser à son Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est formé de plusieurs membres, parce que le Seigneur nous fait la comparaison de son Église avec un corps, avec les différents membres qui marchent dans l'harmonie ensemble pour accomplir une œuvre. Mais déjà là, on est le corps du Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part. Puis dans 1 Corinthiens 12, 12, il nous dit, car comme le corps est un, donc il y a une unité, le corps c'est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, en tant que le corps du Seigneur Jésus-Christ, nous, sur la terre, en étant plusieurs membres, on est vraiment un corps parce qu'on est le corps du Seigneur Jésus et on représente sur la terre le Seigneur Jésus. Pour ceux qui, le Seigneur est venu sur la terre, mais il est parti, il est dans la gloire. Mais nous, maintenant, son corps, on est les membres de Christ, on fait partie du corps de Christ, on représente le Seigneur Jésus sur la terre, chacun pour sa part, étant différent, mais dans l'harmonie. Dans 1 Jean 3, 2, il nous dit aussi, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il y a un aspect aussi dans le corps du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, qui sont ses enfants, qui font partie de l'Église, qui sont le corps du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas encore manifesté dans la gloire. Puis comme il dit ici, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est sûr qu'on est en transition vers ce qu'on va être pour l'éternité. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on représente les gloires du Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour, on va être complètement ce qu'on devrait être par la puissance du Seigneur. Puis là, on va manifester le Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part, comme il nous dit dans 2 Thessaloniciens 1:10, lorsqu'il viendra. En ce jour-là, pour être glorifié ou manifesté dans ses saints, c'est ceux qui sont sauvés, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Parce qu'on va être à ce moment-là, quand le Seigneur va revenir avec nous autres, après qu'on va avoir été enlevé avec lui, on va avoir été transformé en un instant, en un clin d'œil, puis on va revêtir notre corps glorieux, notre corps céleste, notre corps éternel, et on va manifester chacun pour sa part. On va être différent encore, mais dans l'harmonie étant le corps du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, on va manifester les gloires. Puis toujours en pensant avec la tunique de plusieurs couleurs qui représentait plusieurs gloires du Seigneur Jésus, ben nous aussi, on va représenter des gloires comme les étoiles dans le firmament. Les étoiles, même s'ils sont plusieurs, ils diffèrent en éclat. Il y en a qui sont plus glorieuses, d'autres moins. C'est pas tout pareil, mais nous, on va être comme ça, on va manifester toutes les gloires du Seigneur Jésus-Christ ensemble. C'est ça qu'on va être rendu semblable à lui, mais ensemble, on va être rendu semblable à lui. Lui, il est vraiment la plénitude. C'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui. Toute la gloire lui revient à lui. Mais nous, on va l'être chacun dans un aspect de la gloire du Seigneur Jésus. Vous savez, chacun de nous on va manifester, un peu comme la tunique de plusieurs couleurs de Joseph, qui manifeste toutes ces couleurs-là avaient une signification. On sait que Dieu, il fait rien sans signification. Les noms ont des significations, les couleurs, même on voit dans le tabernacle, dans le temple, il y avait des couleurs qui étaient mentionnées, et ces couleurs-là avaient des significations. Puis les couleurs aussi de la tunique que Joseph avait, ils représentaient des facettes, des aspects de la personne de Joseph que le Père voulait manifester à ses frères. Mais vous savez, quand on pense à ça, on peut penser, quand on pense à Moïse, bien, on pense à la patience du Seigneur. Parce que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Même s'il y a eu une faille à un moment donné, puis il a perdu patience, mais quand même, Moïse est un homme patient, il est connu pour sa patience. Puis sa patience lui venait du Seigneur. Puis chacun de nous, un peu comme Moïse est connu pour sa patience, eh bien, il représente la patience du Seigneur Jésus. Puis nous, chacun de nous, dans ce que le Seigneur fait en nous, on représente un aspect parce que c'est lui qui se manifeste en nous, parce qu'on est changé, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Donc, on voit que dans le tabernacle, il y avait des différentes couleurs qui étaient mentionnées dans le tabernacle. On pense à le cramoisi, le bleu, le pourpre, le fin, le blanc. Toutes ces choses-là ont des significations, mais dans la tunique de plusieurs couleurs, les couleurs ne sont pas mentionnées. Il nous est juste dit qu'il y a plusieurs couleurs, mais ils ne sont pas mentionnés. Mais quand on pense à la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne infinie. Puis il y a tellement de facettes à la personne du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas finir de les énumérer. Mais quand même, c'est le Père qui avait donné la tunique à Joseph, comme le Père a voulu manifester le Seigneur Jésus, puis le Seigneur Jésus manifeste le Père. Comme il a pu dire à Philippe, quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est la manifestation de Dieu dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs, ne sont pas mentionnées parce qu'ils sont encore à découvrir. On passe une vie entière à découvrir des facettes, puis dans l'éternité, ça va être un peu comme la reine de Séba qui était venue voir Salomon. Puis elle a dit, quand elle a vu Salomon, que la moitié de sa gloire surpassait ce que sa renommée avait fait connaître. Puis elle dit que la moitié n'en avait pas été dit. Puis la même chose avec le Seigneur Jésus. Donc c'est le Père qui veut manifester le Fils. Puis le Père, lui, apprécie, Jacob appréciait Joseph. Jacob connaissait son fils. Jacob, il avait une appréciation de son fils, mais il voulait transmettre cette appréciation-là à ses frères, qu'il n'aurait pas dû le haïr, mais il aurait dû l'aimer éventuellement. Ça va changer, comme pour les Juifs un jour, ils vont aimer le Seigneur Jésus parce qu'il va les sauver. Puis ils vont comprendre, comme nous, il nous a sauvés, puis on aime découvrir le Seigneur Jésus. Mais le Père apprécie pleinement le Fils dans son infinité. Mais nous, on apprend à le connaître. On apprend, nous autres, à apprécier quand on porte attention aux choses qui concernent le Seigneur Jésus que le Père nous fait connaître. On apprend à apprécier ce que le Père nous révèle, puis ce que le Père apprécie de son Fils. Dans Deutéronome 29, au chapitre 29 et le verset 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, c'est ça qui était. Dieu, le Père, veut qu'on connaisse le Fils. Pour ça qu'il nous l'a envoyé sur la terre. Il nous a parlé dans le Fils. Il nous a révélé des gloires. Quand on pouvait voir, quand ses disciples voyaient le Seigneur Jésus agir, c'était le Père qui parlait. C'était le Père qui agissait. Mais ce qui est encore plus remarquable, dans ces différentes gloires-là, on parle d'une tunique de plusieurs couleurs, c'est que c'est toutes ces couleurs-là dans ce vêtement-là, ça s'harmonisait parfaitement. Vous savez, des fois, moi, je suis pas terrible là-dedans, là. Quand je pars en voyage, là, mon linge, il match. Mais quand ça fait deux semaines que je suis sur la route, là, ça commence à matcher moins parce que là, il a fallu faire du lavage. Puis, mais Denise m'arrange tout ça. Mais moi, ça ne me dérange pas les couleurs, là, mais ça a l'air qu'il y en a que ça les dérange. Mais moi, ça ne s'harmonise pas. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, tout cela s'harmonise parfaitement. C'est ça qui est beau, là. Le Père, c'est le Père qui nous révèle une belle harmonie dans son Fils, qui nous parle de ce que le Père est. Mais on voit que c'est le Père qui révèle le Fils. C'est Jacob qui a donné la tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Dans Matthieu 11, 27, il dit, toutes choses, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et vous, comment Dieu a fait en sorte qu'il nous soit révélé, puis c'est sa façon qu'il nous a révélé en nous envoyant son Fils, qui lui, en étant manifesté au milieu de nous, dans toutes ses actions, ses paroles, dans ce qu'il était dans sa personne, eh bien, cela nous révèle aussi le Père. Mais comment qu'on peut en arriver à connaître le Fils? Ça, c'est important. Notre vie chrétienne, c'est ça vraiment, c'est de connaître le Fils. Et si notre vie chrétienne ne nous apporte pas à connaître le Fils, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Parce que la vraie vie chrétienne va nous amener à connaître le Fils. Si on va dans Jean 10, au verset 14-15, le Seigneur Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est merveilleux de penser à ça. Le Seigneur Jésus, lui, il nous connaît, c'est sûr qu'il nous connaît. Il nous connaît même plus que nous-mêmes. Puis, quand on vit dans l'intimité de quelqu'un, notre épouse, pour les femmes, leur époux, on vient à se connaître d'une façon assez intime. Mais le Seigneur Jésus nous connaît encore mieux que ça. Il nous connaît encore mieux que nous-mêmes, on se connaît. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Puis, il dit ensuite de ça, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et vous, on est entré dans une relation avec Dieu, qui est la relation que le Père et le Fils ont ensemble. Il dit, moi je les connais, mes brebis, puis mes brebis me connaissent aussi, comme je connais le Père et comme le Père me connaît. Mais comment le Fils connaît le Père, puis comment le Père connaît le Fils, c'est dans la communion. C'est ça qui est important dans la vie chrétienne. C'est dans la communion, on connaît, ça veut dire percevoir, ressentir et être conscient. C'est ça qui est important de la communion. C'est pour ça que la communion est tellement importante. Vous savez, la relation est solide. La relation est sécure. On ne peut jamais perdre notre salut parce que c'est une relation. On est devenus des enfants de Dieu. On ne peut plus jamais sortir de cette relation-là. Elle est sécure par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mais la communion, elle est fragile. ça que Jean nous parle de cette communion-là. Cette communion-là est fragile, puis il faut l'entretenir. C'est comme la lampe du sanctuaire dans le tabernacle et ensuite dans le temple. Il fallait entretenir cette lampe-là. Puis il faut entretenir notre relation avec le Père et avec son Fils. Parce que c'est de cette façon-là qu'on connaît le Père, c'est de cette façon-là qu'on connaît le Fils. Dans 1 Jean 1, 3, il dit, ce que nous avons vu, j'en parle ici, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne est basée sur cette communion-là qu'on doit garder précieusement à chaque jour de nos vies, vivre dans la communion du Père et du Fils par son esprit. C'est ainsi qu'on va croître dans notre vie chrétienne. C'est ainsi qu'on va connaître le Seigneur Jésus. Les différentes couleurs qui nous sont révélées par le Père, on va les connaître dans une façon progressive, puis en les connaissant, on connaît le Père. Ça, c'est important. Mais dans 1 Corinthiens 1, 9, Paul il dit, Dieu est fidèle. Ou quand il dit Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu est digne de notre foi. Vous savez, quand on met notre confiance en Dieu, il est digne de notre confiance. Jamais il va nous désappointer. Il dit Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est Dieu qui nous a appelés à cette communion-là. C'est sûr qu'à cause de notre péché, c'était impossible d'avoir communion avec lui. Mais lui a pris en charge de régler la situation de nos péchés. Puis celui qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a réglé la question de notre péché pour nous faire entrer dans une relation de communion avec lui. Mais maintenant, on sait que si la relation ne peut pas se perdre, la communion se perd si on pêche. Quand on pêche, il faut, puis Jean nous donne toute la façon de procéder dans le premier chapitre de son premier épître. Il nous dit que si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, puis la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, digne de foi, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. Donc, le sang de Christ continue de nous laver quand on marche dans la lumière, quand on marche dans la confession de nos péchés, continue de nous laver pour qu'on puisse être en communion avec le Père et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus, dans l'éternité, il va être le centre. On voit dans l'Apocalypse, quand au milieu du trône, il y avait là un agneau comme immolé, puis les yeux se tournent vers lui. Le Seigneur Jésus est le centre présentement aussi pour ceux qui l'aiment. Le Seigneur Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Seigneur Jésus, c'est le centre. Puis c'est un peu ce que Jacob voulait faire de Joseph. Il voulait faire de Joseph le centre de sa famille, avec raison, à cause du caractère de Joseph. Puis on sait que c'est parce que Joseph, vraiment, est un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Père, il veut. Il veut que le Seigneur Jésus soit le centre de notre attention, parce qu'il est la révélation de Dieu. Puis on voit que le Seigneur Jésus lui-même, quand ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, il était tout triste. Vous savez, il s'entretenait des bonnes choses. Comment Jésus, un prophète puissant, en parole et en œuvre, qui avait fait beaucoup de miracles et qu'il était maintenant allé à Jérusalem, il avait été saisi par les chefs religieux. Puis, il l'avait fait souffrir et il l'avait mis sur une croix. Il était mort, il était enseveli. Puis, il disait que son tombeau maintenant était vide. Puis, certains avaient dit qu'il l'avait vu ressusciter. Il s'entretenait des bonnes choses. Sauf que il disait, nous croyons que c'était lui qui devait. Donc, il pensait qu'il était fini, mais le Seigneur Jésus les a ramenés à l'ordre. Il leur a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, c'est justement là, dans Luc 24, verset 27, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, c'est comme si il leur révélait les couleurs de la tunique ici. Il les a pris dans où ils étaient découragés, ils étaient tristes, puis il a commencé à leur expliquer dans les Écritures les choses qui le concernaient. Puis ces gens-là, après, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'en chemin, ils nous parlaient? Puis, même s'ils étaient fatigués, c'était sur le soir, ils sont partis de là, ils sont levés tout de suite, ils n'ont pas attendu au lendemain matin. Ils sont retournés à Jérusalem vers les 11, puis ils avaient un message. Ils disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité, réellement ressuscité. C'est ça qu'on voit quand on a les yeux sur le Seigneur Jésus, on a les yeux à la bonne place. Mais, vous savez, on peut connaître, puis le Seigneur, quelqu'un a dit, le Seigneur n'a pas de favoris, mais il a des intimes. C'est nous, on peut s'approcher aussi proche du Seigneur qu'on veut. Il est disponible pour nous. Mais c'est nous qui sommes la limite de cette intimité-là qu'on peut avoir avec le Seigneur Jésus. Puis, pour connaître cette intimité-là, il faut être sauvé, premièrement. C'est sûr que si on n'est pas sauvé de nos péchés, on ne peut pas connaître l'intimité du Seigneur. C'est pour ça que les religions, pour eux, le Seigneur Jésus n'est pas si important que ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est devenu important pour nous. Puis, il faut d'abord être sauvé, mais il faut aussi être pur, comme lui-même est pur. Donc, ça prend la pureté doctrinale. Il faut rester dans la pureté doctrinale, mais aussi dans la pureté morale ou dans la pratique. Il ne faut pas être dans le péché. C'est pour ça que, on a besoin du sang de Christ qui a un effet continu de nous purifier, de nous laver de nos péchés pour qu'on demeure en communion avec le Seigneur pour pouvoir le connaître. Donc, puis aussi, il faut être séparé du monde pour être dans l'intimité du Seigneur. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, il faut se séparer du monde, mais pas seulement du monde séculier. Il faut aussi se séparer du monde religieux. Parce que le Seigneur Jésus, il a été séparé du monde religieux. Il a souffert en dehors de la porte des murs de Jérusalem. Puis il nous appelle, on voit dans le livre, l'Épître aux Hébreux, à aller vers lui en dehors du camp. Ça, Jérusalem, c'était la capitale religieuse. Mais la capitale religieuse, ils l'ont mis dehors, puis ils l'ont mis sur une croix. Puis maintenant, nous, on va vers lui en dehors du camp. Donc, on faut être séparé du monde et séparé aussi du monde séculier, autant que du monde religieux. Parce que le monde religieux n'a pas l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, les versets 14 à 18, il nous dit, car l'amour de Christ, pardon, attendez un peu ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez-vous, le Seigneur nous offre une grande intimité, mais il nous demande de se séparer de ce qui n'est pas dans cette intimité-là, dans ce qui va nous empêcher d'être dans cette intimité-là. Donc, c'est important d'être séparé de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que quand on est dans l'intimité du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, on lit sa parole, puis le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses par rapport au Seigneur Jésus. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'arrivera jamais au bout. On peut passer toute notre vie à sonder les Écritures, à connaître le Seigneur Jésus, puis plus on va le connaître, plus on va l'aimer. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Il y a tellement de choses à découvrir sur le Seigneur Jésus. Vous savez, comme on a dit, Il y a plusieurs titres. Ces noms nous parlent des titres du Seigneur Jésus. Puis il y a aussi, on dit qu'il va être couronné de plusieurs couronnes. Dans Apocalypse au chapitre 19, au verset 12, il dit, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, ou dans la marche, ça dit des couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Puis Jacob, en donnant cette tunique de plusieurs couleurs à son fils Joseph, eh bien, c'était vraiment qu'il voulait étaler devant ses frères le caractère de Joseph. Mais s'ils avaient partagé l'appréciation de leur père pour Joseph, ils auraient observé ces couleurs-là. Puis ils auraient découvert dans la personne de Joseph les beautés de leur frère qui avait à cœur leur bien, qui va se montrer dans la suite. S'ils avaient appris à découvrir leur frère Joseph, ils l'auraient aussi apprécié. Puis ils auraient vraiment regardé vers lui pour leur bénédiction. Mais cette appréciation-là, mais c'est toutes les facettes qui s'harmonisent parfaitement dans sa personne. C'est difficile des fois pour nous autres de comprendre comment l'humanité du Seigneur Jésus ne rentrait jamais en conflit avec sa divinité. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu, parfaitement Dieu, tout en devenant homme. Mais des fois, c'est difficile pour nous autres de comprendre comment son humanité n'a jamais été en conflit avec sa divinité. Le Seigneur, c'est une puissance du Seigneur Jésus d'harmoniser, de réconcilier toutes choses. C'est le travail que le Père lui a confié de réconcilier toutes choses avec le Père. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu pour réconcilier tant ce qui est sur la terre, ce qui est sur la mer, dans les cieux. Il va réconcilier toutes choses, l'amener à pleine harmonie avec lui, avec son Père. Dans le psaume 85, au verset 11-12, il dit, la bonté et la fidélité, ou la vérité, se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Donc, on voit que c'est comme s'il y avait un conflit, là. La bonté, Dieu nous donne sa bonté, mais il dit la vérité. Mais la vérité, c'est ça le problème. La vérité, c'est qu'on ne mérite pas la bonté de Dieu. La vérité, c'est qu'on est des pécheurs perdus, séparés de Dieu. Mais Dieu, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il a réussi à trouver ou à accomplir une façon de pouvoir nous donner sa bonté. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu a trouvé un moyen en Christ de nous donner sa bonté en dépit de la vérité, parce que la vérité maintenant qui nous concerne, on n'est plus des pécheurs perdus, séparés de Dieu. On est des gens de la maison de Dieu. On a été réconciliés avec Dieu sur la base du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. On a été déclarés justes. On va être rendus parfaits pour l'éternité. Quand il dit la justice et la paix s'embrassent, ben s'embrassent vraiment dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la justice, c'est qu'on mérite le jugement. Mais il dit la paix, c'est dans le sens de harmonie ici. Donc, on n'était pas en paix avec Dieu. Mais puis la justice était qu'on aurait dû être puni, être sous le jugement de Dieu. Mais à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous, maintenant, il nous pardonne et dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est vraiment dans la personne du Seigneur Jésus-Christ que tout s'harmonise. Ça, c'est pour ça que ce sacrifice-là, il est tellement parfait, tellement beau, ce sacrifice-là, il vient de la pensée même de Dieu, sa pensée infinie. Mais quand on pense aux couleurs, le Père a donné différentes couleurs, plusieurs couleurs à la tunique de Joseph. Mais ses frères ont ajouté une couleur à la tunique du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est le sang. Ils ont pris la tunique, ils l'ont plongée dans le sang. Mais cette couleur-là, maintenant, est venue sur les autres couleurs de la tunique. Ils l'ont trempée dans le sang pour faire accraire à leur père qu'une bête féroce l'avait dévoré parce qu'il l'avait vendu pour être un esclave. Donc, ils ont ajouté, ses frères ont ajouté une couleur par-dessus les couleurs que le père avait données à la tunique de plusieurs couleurs. Mais vous savez une chose, que cette couleur-là que les frères de Joseph ont ajoutée à la tunique, qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a fait manifester encore davantage le caractère de Joseph, comme le Seigneur Jésus. Vous savez, la croix a manifesté le caractère parfait du Seigneur Jésus. Il a été comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Toute la personne du Seigneur Jésus-Christ a été manifestée comme étant vraie. Puis Dieu a approuvé son sacrifice en le ressuscitant des morts. Donc c'est vraiment merveilleux. La croix, là, a manifesté parfaitement. Quand le Seigneur a dit, je suis doux et humble de cœur, ben, la croix a manifesté ce caractère-là parfait du Seigneur Jésus-Christ. Puis cette couleur-là est devenue dominante sur la tunique de Joseph. C'est la couleur du sang qui a été mis dessus. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 6, il dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et vous, même ici sur la terre, on pense à la croix du Seigneur Jésus, puis on est ébloui par sa croix. Comment lui qui était si puissant, qui aurait pu écraser, qui aurait pu détruire ceux qui étaient là, il a été comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Il a dit, je suis comme un ver et non un homme. Il était dans l'opprobre, mais à cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, il a souffert l'ignominie et la honte qui lui a été imposée. Puis il n'a point ouvert la bouche, au point que même un centenier qui était habitué de voir des hommes mourir dans le supplice, en voyant le Seigneur Jésus dans sa mort, il a pu dire certainement ou assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le brigand sur la croix à côté de lui a pu dire, nous, c'est ce que nous avons mérité, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc le Seigneur, il nous a gagnés par cette personnalité-là, cette personne-là, son caractère parfait dans la soumission à son Père. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si aujourd'hui la vie chrétienne nous amène à contempler sa croix, imaginez-vous, dans l'éternité, ça va continuer. Ça va continuer parce que il dit au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau était là comme immolé. Puis on voit que l'attention est sur cet agneau-là qui a été immolé. Puis on voit que ça amène la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration. Dans Apocalypse 19, 13, il nous est dit, et il était revêtu, ça c'est le Seigneur Jésus, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et vous, comment cette couleur-là, que même ses frères, à leur insu, ils ont ajouté une couleur à la tunique que le Père avait donnée à Joseph, mais cette couleur-là est devenue dominante pour manifester la véracité de ce que le Père voyait dans son fils Joseph, dans toutes ces différentes couleurs-là qui lui avaient été données. Vous savez, il y a un chant qu'on chante, que les seules choses qui sont là au ciel, qui vont avoir été faites de main d'homme, c'est les marques dans les mains du Seigneur Jésus. Puis il va porter ces marques-là dans l'éternité. C'est vraiment quelque chose. Puis on se dit, nous autres, c'est nous autres qui l'avons mis sur la croix. On a beau dire, c'est les Juifs peuvent dire, c'est les Romains, mais c'est à cause de nos péchés qu'il est allé sur la croix. Puis on va être pour éternellement reconnaissant pour ce que le Seigneur Jésus aura fait, parce que imaginez-vous si on l'est présentement, qu'on n'a pas encore goûté entièrement qu'est-ce que ça va être d'être sauvé dans sa présence sans péché pour l'éternité. Mais imaginez-vous quand on va être dans cette réalité-là, comment on va apprécier le Seigneur Jésus, comment On va l'adorer, puis on va lui être, on l'être tellement dévoué. Vous savez, le sang du Seigneur Jésus devrait nous parler de vengeance, mais le sang du Seigneur Jésus nous parle de bonnes choses. Puis éventuellement, pour les frères de Joseph, ça va leur parler de bonnes choses aussi, parce qu'il va avoir manifesté le caractère de Joseph, qui va les aimer, qui va prendre soin, qui va les sauver, puis qui va les soutenir, qui va être pour eux ce que, vraiment la réponse à leurs grands besoins, leurs besoins ultimes. Dans Hébreux 12, 24, il dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance dans Genèse 4, verset 10 à 13. Il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait quand Caïn a tué son frère Abel? Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc, mais le sang du Seigneur Jésus, vous savez, on est des meurtriers du Seigneur Jésus, mais son sang parle mieux que celui d'Abel. Parce qu'il dit dans 1 Jean 1, 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce sang-là qui aurait dû appeler le jugement sur nous autres est devenu notre salut. Puis c'est ce sang-là maintenant qui nous permet d'être en communion avec lui puis avec son Père. Donc c'est tellement merveilleux quand on pense à ces choses-là. C'est extraordinaire de penser à ça. Vous savez, juste quand on regarde à l'évangile de Jean, toutes les choses que Jean a écrites ont été écrites pour qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Donc, tout ce que Jean a écrit par rapport, puis même Jean dit lui-même que si toutes les choses que le Seigneur Jésus a fait avaient été écrites, le monde même ne pourrait pas contenir les livres qui ont écrit ça, dans lesquels ces choses-là ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites, ceux qui ont été écrites, ont été écrites pour qu'on puisse croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est ça que Jean nous présente. Vous savez, l'évangile de Jean, c'est un peu comme un album de photos. Un album de photos qui nous présente le Seigneur Jésus. C'est tous des portraits de Christ dans Jean. Dans le chapitre 1, Jean nous le présente comme le Fils de Dieu. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait sans elle. Puis là, il nous présente le Fils de Dieu, qui n'est pas venu à travers la religion, mais il est venu né d'une femme, né d'une vierge, conçu par le Saint-Esprit. Dieu, un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est le Fils de Dieu qui est venu parmi nous. Dans le chapitre 2, là, c'est le Fils de l'homme. Parce que là, maintenant, ce Fils de Dieu qui est venu du Père, maintenant, il est en rapport avec nous, les hommes. Il est à des noces, il participe à des noces à Cana en Galilée. Il participe aux réjouissances et même, il change l'eau en vin. Puis le vin nous parle de réjouissance. Donc, il est impliqué. Celui qui a institué le mariage, maintenant, se présente à un mariage qui est célébré parmi les hommes. Puis, je suis certain que le Seigneur Jésus pouvait voir tellement plus dans ce mariage-là, parce que ce mariage-là représentait un mariage qui serait le sien un jour avec son épouse qu'il avait rachetée. Puis, imaginez-vous comment est-ce que le Seigneur pouvait apprécier ce mariage-là en participant à ce mariage-là, parce qu'il avait en vue le festin des noces de l'agneau. Dans le chapitre 3, il est le docteur divin. Parce que Nicodème, en voyant les miracles du Seigneur Jésus, lui, il était convaincu, mais vraiment, qu'est-ce qu'il voyait? Ce n'est pas les miracles, il voyait celui qui a accompli les miracles. Puis il a dit, Maître ou Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il est venu à ce docteur divin pour avoir l'enseignement qui venait du Père. Puis, Nicodème, moi, je crois que Nicodème a reçu, car le Seigneur lui a dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Puis, je crois que Nicodème, c'était dur pour lui, un chef religieux, mais finalement, il a démontré sa foi en demandant le corps du Seigneur Jésus pour l'ensevelir. Ensuite de ça, au verset 4, au chapitre 4 de Jean, maintenant c'est le gagneur d'âme. Pour une Samaritaine que les Juifs n'avaient pas porté attention, qui même allait à un puits sur l'heure, quand les personnes étaient là, pour ne pas être remarquée, le Seigneur Jésus était là. Puis lui, il l'a remarqué. Puis lui, il a su parler à son cœur pour gagner son âme. Puis il a parlé, elle a dit, et voici un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne, serait-il pas le Messie? Elle a été convaincue, j'étais un gagneur d'âme. Dans le chapitre 5, c'est le grand médecin. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda, qui était malade pendant tout ce temps-là, puis qui ne pouvait pas aller dans l'eau pour être guéri, mais le Seigneur l'a guéri sans qu'il aille dans l'eau. Le Seigneur a guéri cet homme-là. Le grand médecin qui il a aucune maladie qu'il ne peut pas guérir. Ensuite de ça, au chapitre 6, on voit que c'est le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis le Seigneur leur a dit directement, ces gens-là qui refusaient, je suis le pain de vie. Puis ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Puis il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel. Mon Père vous donne le pain qui descend du ciel. C'était lui qui donnait sa vie pour nous sur la croix. Puis il dit, vos pères n'ont pas mangé le pain qui vient du ciel parce qu'ils sont morts. Il dit, celui qui va manger ce pain va vivre éternellement. Donc c'est le pain de vie. Dans le chapitre 7, c'est l'eau de vie. On a besoin de pain pour se nourrir, on a besoin d'eau aussi pour être désaltéré. Puis le Seigneur Jésus, c'était la fête des tabernacles. Puis il s'est présenté, puis il a dit, celui qui vient en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pourront de son sein. Donc il est l'eau de la vie. Dans le chapitre 8, il est le défenseur du faible. Quand ces chefs religieux-là ont amené cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qu'ils l'ont mis devant le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a défendu cette femme-là. Puis en leur disant que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et tous accusés par leur conscience, ils n'étaient pas mieux qu'eux. Et s'ils l'avaient jugé, ils auraient dû les juger eux aussi. Mais le Seigneur Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, pour juger le monde, mais il était venu pour sauver. Puis il a pu dire à cette femme-là, quand tout le monde sont partis, il a dit, il n'y a personne qui t'a condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Puis, il était le défenseur du faible. Dans le chapitre 9, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde pour cet homme-là qui était aveugle-né. Imaginez-vous, cet homme-là n'avait jamais vu la lumière. Il n'avait jamais vu toute la beauté de la création. Puis, le Seigneur Jésus lui a donné la vue. Il l'a guéri. Donc, il est la lumière du monde. Pourquoi qu'il l'a guéri? Mais pour qu'il puisse le voir. Puis, quand il a demandé, crois-tu? Ben, il dit au Fils de Dieu, il dit, et qui est-ce, Seigneur, afin que je croie en lui? Ben, celui que tu vois maintenant, tu ne le voyais pas avant, mais maintenant que tes nouveaux yeux, il est devant toi. Puis cet homme-là a cru quand la nation, il disait, sommes-nous aveugles aussi? Ben, il dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, votre péché subsiste. Mais cet homme-là, maintenant, avec ses nouveaux yeux, il a pu voir le Seigneur Jésus, il a vu la lumière du monde. Une fois, quand on est sauvé, on dit, j'ai vu la lumière. Puis c'est ça, le Seigneur Jésus, il est la lumière du monde. Dans le chapitre 10, vous savez, le Seigneur Jésus, il nous sauve, mais il ne nous laisse pas tomber. Le Seigneur Jésus prend soin de nous. Il est le bon berger. Puis il prend soin de ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dans le chapitre 11, il est le prince de la vie. Parce que, il arrive maintenant aux frères de Marthe et Marie qui est déjà dans le tombeau depuis 4 jours, qui sent déjà. Puis le Seigneur Jésus le ramène à la vie. Oui, il dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis il est le prince de la vie. Et dans sa résurrection, il devient aussi, il nous a ressuscités. Et puis il va nous ressusciter pour la vie éternelle. Dans le chapitre 12, il est le roi qui se présente à Jérusalem, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Puis il offre vraiment le royaume ici. Son offre était valable. Dans le chapitre 13, il est le serviteur. Il vient laver les pieds de ses disciples. Il se lève de table, il enlève son vêtement, il se ceint d'un linge, il vient laver les pieds de ses disciples, puis il leur dit, si moi, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, mais si moi qui suis le maître et le Seigneur, je vous lave les pieds, lavez-vous les pieds. Il fait en sorte qu'on est tous un royaume de serviteurs. Lui-même est un serviteur. Dans le chapitre 14, il est le consolateur. Après avoir dit à Pierre, dans le chapitre 13, que Pierre allait le renier 3 fois. Tout de suite après, vous savez, quand on a la division des chapitres, des fois on manque la connexion, mais imaginez-vous quand il a dit à Pierre, qui lui avait dit, même si je devais mourir, Seigneur, jamais que je te renierai. Puis là, il dit, Pierre, le coq chantera pas que tu m'aurais renié 3 fois. Puis là, tout de suite après, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est le consolateur. Puis il leur a dit qu'il allait leur envoyer un autre consolateur. Dans le chapitre 15, il est le vrai cep. Celui, toute branche qui était attachée au cep a porté du fruit. Il est celui qui fait en sorte qu'on peut porter du fruit étant attaché à lui. Dans le chapitre 16, il est celui qui donne l'esprit. Après qu'il ait été ressuscité, il dit, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure, il est avec vous. Il dit, il va demeurer éternellement avec vous. Donc, il est celui qui donne le Saint-Esprit. Dans le chapitre 17, c'est certain que maintenant, il est l'intercesseur par excellence. On l'entend. Imaginez-vous les disciples qui ont entendu le Seigneur intercéder pour eux. Vous savez, des fois, les gens nous disent, puis ils nous disent, j'ai prié pour toi. Ça nous fait tellement du bien de savoir que les gens prient pour nous parce qu'on en a tellement besoin. Mais imaginez le Seigneur, il est l'intercesseur par excellence. Puis il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, il est le grand intercesseur. Dans le chapitre 18, il est le modèle de souffrance. Quand il a été livré entre les mains du monde, entre les mains des Romains, des Juifs, entre les mains des Juifs, puis entre les mains des Romains, puis il a été comme une brebis muette devant ceux qui le trompent. Il était le modèle parfait de souffrance. Dans le chapitre 19, il est le sauveur élevé. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il avait dit dans le chapitre 12, puis là, dans le chapitre 19, il est élevé sur la croix. Puis qui n'a pas entendu parler dans ce temps-là, ceux qui étaient autour ont pu le voir élevé sur la croix, souffrir. Qui n'a pas entendu parler sur la terre de la croix du Seigneur Jésus-Christ? Qui n'est pas, il peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est le sauveur élevé. Puis, dans le chapitre 20, il est le conquérant sur la mort. Il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli, mais il est ressuscité aussi le troisième jour selon les Écritures. Puis le Seigneur Jésus est apparu vivant à ses disciples et même à plus de 500 frères à la fois. Pas au monde, mais à ses disciples, il est apparu. Il est apparu premièrement à des femmes qui le cherchaient, qui sont allées le chercher au tombeau, puis ils l'ont vu, mais pas dans le tombeau. Ils l'ont vu, le tombeau vide, après ils ont vu le Seigneur Jésus. Puis, au chapitre 21, maintenant, il est le restaurateur du pénitent. Pauvre Pierre, qui avait renié le Seigneur Jésus 3 fois avant que le coq chante, puis il a regardé le Seigneur, qui l'a regardé, puis il est sorti, puis il a pleuré amèrement. Mais pauvre Pierre, qui était dans cette situation-là, et qui maintenant, il entend parler de la résurrection du Seigneur Jésus, Mais pour lui, le Seigneur lui avait dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Puis, il dit, quand tu seras relevé, relève tes frères, va vers tes frères. Puis, le Seigneur Jésus prend un chapitre dans le chapitre 21 de Jean à la fin pour, il a pas oublié Pierre, puis il est revenu pour le restaurer et restaurer ceux qui étaient avec lui. Puis, Pierre, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, Jean, il nous fait ces portraits-là du Seigneur Jésus. Puis, comme Jean aimait le Seigneur Jésus, il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Mais comme lui aimait le Seigneur Jésus, Pierre, Jean savait que le Seigneur Jésus l'est. Puis, c'est un peu comme si, vous savez, quand les grands-parents ils nous montrent les photos de leurs petits-enfants, nous autres, ça nous intéresse moins qu'eux autres, mais les autres ont vraiment, ils nous montrent les photos de leurs petits-enfants, ils sont emballés, ils sont tellement fins. Ben, c'est sûr que on n'est pas tanné d'entendre ou de voir les portraits du Seigneur Jésus, puis Jean nous les révèle, il nous donne un album de photos, de portraits du Seigneur Jésus, puis on les médite, on les savoure, puis on les apprécie jusque dans l'éternité. Sa personne et son œuvre sont l'objet de toute notre méditation. On ne peut pas faire comme les frères de Joseph, on veut apprécier les couleurs de la tunique que le Père a donnée au Fils. Puis on va passer notre vie chrétienne à les observer, à les méditer, puis dans l'éternité. On est dépassé un petit peu notre temps. Je vais vous donner quand même un temps pour pouvoir faire des commentaires ou pour faire ou demander des questions. Je vous donne la possibilité de reprendre votre micro.
J'aurais une petite remarque que j'avais, mais tu as jamais arrêté ça. C'est vraiment spécial quand tu as mentionné la tunique de plusieurs couleurs. Hein, lorsqu'elle était imbibée de sang, bien, c'est comme si la gloire du Seigneur avait, lorsqu'il est mort à la croix, il était tout tombé en quelque sorte. Mais ce que je vois à travers ça, comme tu as mentionné, ça représente le sang que Jésus a versé à la croix. Mais tu n'as jamais arrêté à ça. C'est vraiment spécial. Et pendant que Joseph croyait que son fils était mort, Dieu le préparait à venir dans la gloire, Joseph, hein, croyant que c'était fini, mais l'histoire n'était pas finie parce que Joseph. Il est passé par des moments difficiles, mais il est amené dans la gloire, comme Jésus après sa résurrection. Hein. Parce qu'avant de mourir, il avait dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi.
Alors que le monde fut. Oui,
Hein? C'est spécial.
ouais, c'est
Merci.
spécial.
On pourrait-tu ajouter à ça que le sang que les frères ont pris, ils ont tué un agneau, puis ils ont mis ça sur le vêtement, c'était le péché du monde aussi. C'était un péché qu'ils faisaient.
Ouais. Mais c'est comme
Ils faisaient comme
les
si,
hommes.
s'il était mort, Joseph, pour son
Ouais.
père.
Ouais.
C'était comme un péché, ce sang-là.
C'est
Il
ça.
mettait sa tunique, puis
Mais
là, le Seigneur le prenait.
c'est ça, c'est nous autres
Oui,
qui
c'est
l'a.
ça.
On n'a pas voulu de lui, on a voulu qu'il meure.
On était comme les frères,
Ouais.
oui. C'est
Ouais.
ça.
Les autres en préfiguration. Et on crée un animal, mais nous autres, le Seigneur Jésus il a versé son sang. Ouais. Mais en même temps, lui a dit, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. C'était lui-même qui s'offrait en sacrifice pour nos péchés. Mais d'un sens, Pierre pouvait dire aux Juifs, dont vous avez été les meurtriers, mais là, maintenant, il annonçait le pardon des péchés à cause de l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Puis comme Joseph a dit à ses frères, il dit, vous l'avez voulu en mal,
Mais
mais
Dieu
Dieu l'a
l'a
tourné
changé
en
en
bien.
bien.
qu'il devienne leur sauveur.
Ce qui m'a toujours agacé, c'est que Jean, quand il dit le disciple que Jésus aimait, et dernièrement, j'ai continué à réfléchir parce que ça m'agaçait tout le temps, pourquoi qu'il dit ça. Puis je me suis dit, lui, il dit, mais les autres pourraient le dire aussi. C'est que lui, il le dit dans son évangile, mais finalement, tout le monde pourrait dire, oui,
Paul l'a dit aussi.
on est l'objet de son amour.
Oui, le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Paul a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On peut tout dire que Dieu prouve son amour avec nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies. Donc, on peut tout dire qu'on est le disciple que Jésus aimait. C'est juste qu'on l'apprécie peut-être moins. Je l'apprécie pleinement.
Oui, c'est ça. Je ne doute pas qu'il ait pu avoir une relation particulière, mais je me suis dit que moi aussi, je pouvais dire ça.
Exactement, on peut tout dire ça.
C'est mieux de dire ça que de dire le disciple qui aime Jésus. C'est plus prétentieux. Pierre, moi, comment tu dis, il te renierait, moi, je ne te renierais pas.
Il faut faire attention.
Je cherchais tout ça.
OK, fait que le temps est arrivé, on va peut-être avoir un mot de prière, puis ceux qui doivent partir pourront partir, puis ceux qui veulent continuer, on pourra parler. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui nous présente ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, on ne veut pas être comme les frères de Joseph, puis refuser la manifestation que tu nous donnes de ton Fils. Seigneur, on veut la chercher, on veut la méditer, on veut méditer tout ce qui concerne ton Fils, Seigneur. Et de le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Et c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. On te remercie pour toutes ces choses. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. Merci pour nous avoir aidés, Seigneur, dans ta parole. Merci pour tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.